11, tais-toi. Sur Nostalgie, Jean-Luc Reichmann.
Eh ben écoute, on est toujours là et on va parler de toi et de ton actualité. Ça s'appelle la pub avant ou après la pub, mais quoi qu'il arrive, c'est la tienne. Alors, nous sommes en route pour le week-end avec le grand Michel Jonas. Et la tournée, eh ben, va pas nous saouler, mais elle s'appelle Soul quand même. Et je la trouve mignonne comme tout. Alors, effectivement, il y a un registre où les reprises vont bon train pour la tournée, vous voyez ce que je veux dire. Groove, baby groove, les wagonnets, minuit sonne. Ça, c'est l'album Soul de l'année dernière. La FM qui s'est spécialisée funky, ça, c'est encore un voyage. Et l'amour, au bout de toutes ces années, finalement, ça devient sérieux ?
Oui, c'est ça. Ça devient sérieux, ça peut devenir sérieux. C'est intéressant ce moment-là dans l'histoire d'amour.
Ouais.
On sent que c'est pas juste. Ça commence à prendre une autre tournure.
Ouais. Quand est-ce qu'il est le virage ? Quand ça devient sérieux ?
Je le dis dans la chanson. Quand on commence à rire ensemble.
Oui.
À tenir compte. Beaucoup de l'autre,
la complicité.
Et de ses désirs et de ses besoins, etc.
Oui.
Et cette complicité, oui, c'est ça, il y a quelque chose, c'est assez inexplicable, et c'est ça qui est beau.
Bien sûr.
Voilà, c'est ça qui est beau. Si bien, je pouvais bien. Expliquer, ce serait...
Moi, ce qui me plaît énormément, tu l'as bien compris, dans cette tournée, ça va passer par Clermont-Ferrand. Alors, il y a un festival, les Nuits de Champagne, le 21 octobre, et c'est à 3 dans l'aube, vous prenez l'autoroute à 5 de Paris, c'est à 1h30, et je crois qu'il va y avoir quand même du beau monde qui sera dans le public, mais là, ça va être compliqué, parce que tu vois, je lis septembre, octobre, Clermont-Ferrand, Angers, Toulouse, Rouen, novembre... un petit peu partout, Nantes. Là, tu y vas et tu remets un peu, je dirais pas vulgairement, le pied dans la cantine. Mais de temps en temps, tu nous avais manqué. C'est drôle parce que j'étais il n'y a pas longtemps avec Isabelle Nanty au spectacle d'Alain Souchon. Et elle disait, mais il nous a manqué. Et tu m'as dit tout à l'heure, mais non, j'ai pas arrêté.
Mais non, j'ai jamais arrêté. Oui, c'est ça. Quelquefois, peut-être on en parle.
Oui.
On en parle moins.
Oui.
Peut-être dans les médias. Mais ça, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Moi, je maîtrise l'écriture, les enregistrements, les spectacles. Mais le reste, non.
Alors, quand Dijon, Reims, Pau, Bordeaux, Biarritz, Rennes, tu traverses les frontières, parce que t'es un homme comme ça, toi, tu traverses les frontières. Liège, cet endroit magique qui est le Forum, le Cirque Royal à Bruxelles. J'ai eu la chance d'y jouer au théâtre et c'est un bonheur. Aix-en-Provence, Nice. Alors, il faut aller voir ce monsieur. La tournée s'appelle Soul Tour et c'est un grand bonheur de mettre en avant monsieur Michel Jonas que l'on va écouter maintenant avec ce joueur de blues représentant avec Ben l'oncle Saul. Oui. D'où vient cette idée fantastique?
Ah, j'avoue que c'est Manu Katché qui m'a suggéré ça et je me suis dit, mais ouais, quelle belle idée, parce qu'avec qui faire un autre duo pour un album qui s'appelle Saul que Ben l'oncle Saul?
Et ben ça tombe super bien, il est sur les platines, parce que c'est la nostalgie positive, les platines de nostalgie. Ah, Michel Jonas est le vrai dans 11 tutoie ce soir. N'oubliez pas, c'est en podcast aussi sur nostalgie.fr. Tu penses qu'on entend ça là?
Non, mais j'avais pas écouté depuis longtemps et j'aime beaucoup ce qu'il y a mis lui. Hein.
Non, mais il y a mis, mais toi aussi, c'est-à-dire
il y a
une espèce d'osmose. Il y a
une osmose.
Ouais,
là, on s'est bien entendu, ouais, vraiment.
C'est-à-dire
c'est la joie.
Ah,
j'entends
ouais.
De la joie de faire, la joie de chanter, la joie d'être ensemble.
Cette espèce de partage, il y aura de la joie. Il y a des dates fantastiques, évidemment. Au Dôme de Paris, les amis, je suis allé il n'y a pas longtemps, comme vous le savez, voir Alain Souchon au Dôme de Paris, parce que je l'ai mis sur tous les réseaux. Il faut aller voir cet homme 2 soirs de suite, alors même 3 soirs de suite, 14 à Orléans, 14 novembre, le 15 novembre. Alors toi qui fais hyper attention à tes cordes vocales.
Ah oui, tiens, j'avais même pas remarqué qu'il y avait 3 de suite.
Ah mais alors, il y a 3 soirs de suite. moi, je, suis...
je me rappelais pas du 14 là.
Eh ben voilà, ben, je te dis que le
14. Je sais, le 15 et le 16, oui.
Le 15 et 16 au Palais des Sports, oui. Dôme de Paris. Et finalement, j'adore cette salle.
Moi aussi.
Parce qu'au début, on se dit c'est grand, et puis pas du tout en fait.
Non, et puis ça peut sonner bien.
Ouais. Ah, mais alors ça a sonné très très fort, et ça va sonner très fort. N'hésitez pas. Et puis alors là, au mois de juin, juste avant, à Olonne, donc c'est les Sables d'Olonne, il y a Patrick Bruel qui d'un seul coup vient mettre son grain de sable. Subtil pour les Sables d'Olonne. C'est bien, ok, pardon, excusez-moi.
Et là, c'est pas le même spectacle.
Non, non, c'est un festival.
Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que moi, j'ai deux spectacles. Le piano-voix, où on n'est que tous les deux avec Jean-Yves. Sables d'Olonne, c'est un piano-voix.
Oui.
Au Palais des Sports, c'est le gros spectacle
Soul. Ah, bah, attends, alors là, on va tout faire pour venir au gros spectacle de Soul Music. Et le festival présenté par Patrick Bruel, donc c'est des bandes de potes qui arrivent au Sables d'Olonne. Et Patrick Bruel pique le boulot des animateurs. Et ça, c'est insupportable. Quand toi, tu piques en tant que chanteur, les boulots à ces pauvres comédiens.
Ah bah non, mais j'ai commencé par comédien.
Ah
par
bah
ça.
Non, ah bah
si,
non.
Je suis comédien
ah bah
aussi.
Oui, et bah oui, et bah justement, les auditeurs vont en parler, puisqu'on va savoir si ils connaissent bien leur Michel Jonas.
Je pourrais citer des comédiens qui se sont mis à chanter aussi.
Alors là, beaucoup. Je ne veux même pas savoir.
Ah, moi non plus.
Il paraît même qu'il y a des animateurs qui sont comédiens, donc ça devient n'importe quoi. Et là, on va savoir si les auditeurs de Nostalgie connaissent bien leur Michel Jonas. Oui. Ça, c'est merveilleux. Il y a un numéro de téléphone. La magie de ce numéro de téléphone. À chaque fois que j'ai un invité, il me dit « Mais d'où vient ce numéro de téléphone aussi facile à retenir ?» 06 60 495 864.
Oh, c'est facile.
C'est le pire téléphone qu'on ait jamais trouvé.
On ne rappelle déjà plus.
Mais voilà, c'est ça. Alors qu'on s'en rappelle dans
864,
si. 864,
si.
495, juste avant. Et figure-toi qu'on a un garçon qui s'appelle Luc. Ça doit être un garçon, normalement. Luc, c'est un garçon, hein, y a pas de problème. De Saint-Aubin, je dis bonjour, bonsoir Luc, comment allez-vous, comment vas-tu puisqu'on se tutoie?
Bonjour à vous.
Ah, alors je...
Bonjour à vous deux.
Eh ben, c'est merci, très très gentil Luc. Je te présente, si tu ne le connais pas, un jeune chanteur en herbe, comédien qui prend des cours de théâtre, l'art dramatique bien sûr le connaît.
Bien sûr.
Ben regardez, oh qu'est-ce qu'il est beau, là il est de face, j'aime bien, j'aime bien parce qu'on est filmé. Je voulais juste embrasser Aroul, parce que Aroul est la femme extraordinaire, avec un cœur, voilà, et elle nous filme, elle essaye que nous soyons beaux, parce que maintenant la radio est filmée. Je t'embrasse et je t'aime très fort Aroul. C'est hyper sincère et tu le sais parce qu'elle est dans l'ombre et elle nous met en lumière. Merci à toi, Aroul. Excuse-moi, Luc de Saint-Aubin, tu peux poser toutes les questions à Michel Jonas avant que
d'accord.
Moi je te pose les questions sur Michel Jonas.
D'accord.
Luc, alors, voilà, il est à toi pendant quelques secondes, Luc de Saint-Aubin, et après on voudra tout savoir sur toi. Voilà. Vas-y, Luc, pose des questions à Michel.
Bah, en fait, j'ai une question, enfin une question sérieuse et une qui ne l'est pas.
Oui.
Vous choisirez celle que, sur laquelle vous voulez répondre, Michel.
Vous direz Jean-Yves Giscard d'Estaing en 74. Une qui est sérieuse, une qui ne l'est pas. Vous choisirez. Alors Luc, quelle est de cette première question, Luc?
Alors la question sérieuse, mais sur quel projet vous travaillez en ce moment? Je sais que vous allez faire la tournée Soul Tournée. Là, le seul concert. Et, mais par ailleurs, vous partagez un peu votre temps entre la musique, la production musicale, le cinéma et la télévision. Donc, en ce moment, quel est le projet sur lequel vous travaillez, indépendamment, bien sûr, de la tournée?
Eh ben, c'est très précis. Bravo, Luc,
oui,
déjà.
Oui, c'est très précis. Alors, comme vous l'avez entendu...
Et je rajoute ma question humoristique. Mais c'est qui cette Lucille?
Je ne sais pas.
Alors, Lucille nous appartient à tous, on en a parlé tout à l'heure.
Bien sûr.
En revanche, plus concrètement, il a raison, Luc. Tu es un touche-à-tout, tu as envie de profiter de la vie telle qu'elle vient, et l'objectif,
mais j'en profite,
c'est cette tournée.
J'en profite de la vie.
C'est cette tournée, mais est-ce qu'il y a un objectif, celui que tu as envie de toucher après?
Oui, puisque moi j'aime être sur scène, et que pour nourrir la scène... Il faut bien écrire des nouvelles chansons. Des nouvelles chansons, pour moi, ça a toujours été pour nourrir un nouveau spectacle. Et en même temps, j'avoue que j'adore ça. J'adore le moment où j'ai ce plaisir d'écrire. Donc, ce n'est pas juste seulement, vous voyez, parce qu'il faut que je fasse des nouvelles chansons, mais ça excite aussi l'envie du public, les nouvelles chansons, d'aller voir un nouveau spectacle. Donc, effectivement, forcément, comme j'ai l'intention de faire un nouveau spectacle, disons, pour mes 80 ans, c'est-à-dire dans 2 ans, oui, je vais commencer à écrire dans l'année.
D'accord. Il y a une veine, il y a une inspiration que tu as envie d'explorer quelque part, parce que entre le blues, le swing, le rock and roll.
Non, mais ça, c'est les textes qui vont me donner la couleur musicale. Donc là, je ne peux pas te répondre à cette question, je reviendrai.
Juste une question pour compléter celle de Luc. Est-ce qu'on est intelligence artificielle ou...
Ah non, moi, je ne fais pas ça. Moi.
Non, je ne sais pas.
Parce pour écrire que ça fait pas...
Oui, mais non, pour s'inspirer, pour regarder l'air du temps. Qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle? Voilà.
Je ne sais pas. J'espère qu'on pourra la contrôler quand même.
Oui, non, mais si elle est contrôlée, bien sûr. Donc oui, toi, pour l'instant, c'est no way.
Ah ben, je peux lui poser des questions de temps en temps, mais artistiquement et sur le plan de la créativité, no way, oui, bien sûr.
D'accord.
Non.
L'artistique, il n'est pas bon, sur l'humour, elle n'est pas
bonne. Mais ça peut être peut-être un petit peu dangereux.
Bien sûr.
Parce qu'il y a un moment donné, est-ce qu'on va savoir si ça c'est vrai, si ça c'est faux? On le voit déjà avec les images, on voit des images de dingue, on se dit, mais c'est... Alors, donc, ça peut poser un problème. D'ailleurs, je pense qu'ils y réfléchissent beaucoup en ce moment dans notre fameuse maison, la SACEM, la Société des auteurs. Ça pourrait effectivement poser des cas des problèmes, quoi.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Donc, non, moi, j'aime écrire, c'est mon plaisir. Depuis que je suis môme, je fais ça. Et donc, comme quand je prépare un album, j'écris pas 10 chansons, mais j'en écris 30. Donc, j'ai des valises, et quand je te dis des valises, c'est pas une image. J'ai vraiment des valises de cahiers d'écoliers, parce que j'aime bien écrire sur les cahiers d'écoliers, avec des beaux stylos plumes, etc. Donc, ben, en règle générale, quand je prépare un nouveau répertoire, c'est-à-dire un nouveau disque, je relis tout, presque tout, pas tout, mais presque tout, ces cahiers, pour voir qu'est-ce que j'ai laissé tomber, une phrase, un début qui n'a pas eu de fin, etc. Voilà, je fais ce travail qui est assez long, et donc je ne peux pas dire aujourd'hui quel va être le thème principal.
Voilà pour tes réponses, Luc. Maintenant, je vais te poser des questions pendant 60 secondes.
D'accord.
Si toutefois tu réponds bien, fais attention. On va t'offrir des cadeaux de chez Cadeau. Il y a des platines à gagner, pourquoi pas des places de concert. Alors, tu te tiens bien, ça va commencer à partir de...
Maintenant.
Attention, Luc, avant la musique, qu'essaye Michel Jonas, soit le théâtre, soit le doublage de films porno. Vite, Luc.
La théâtre.
Oui, bien sûr. Quel groupe a marqué ses débuts? Soit Raymond et les Citrons, soit Vigon et les Lemons.
Vigon et les Lemons.
Pour quel artiste a-t-il produit Music Soul? Soit David Soul, soit Françoise Hardy.
Françoise Hardy.
Comment s'appelle
le bonbon menthol.
Comment s'appelle le single qui lance sa carrière? Sapé comme jamais ou Dites-moi?
Dites-moi.
De quel générique est-il l'auteur? Zone interdite ou Les 12 coups de minuit?
Zone interdite.
Dans son tube de 85, où va Michel? Dans le RERB ou dans une boîte de jazz?
Dans une boîte de jazz.
Sous quel nom connaît-on aussi Michel? Soit Mr. Freeze, soit Mr. Swing.
Mr. Swing.
Qui ont quelle culture? Dans quel film joue-t-il en 2006? Soit La Doublure, soit Rambo 3.
La doublure.
Où aperçoit-on Michel en 2023? Soit au Cap d'Agde, soit à la station service. Vite.
Je ne sais pas.
Ah, ben bah vite, une des deux.
Station service.
D'accord. Et enfin, comment s'appelle son dernier album? Soul ou Bourré?
Soul.
Merci. Mais c'est bon.
Je me demande si c'est pas parce que c'était un peu facile, mais c'est pas sûr.
C'était super,
c'est pas très compliqué.
Dur. Mais alors, c'était pas les doublages porno. Bravo, ça c'est très très bien. C'était pas Raymond et les Citrons, très bien. C'était pas David Soul. Ah oui, non, mais alors la musique soul, j'y reviens un petit peu.
J'écoute de la musique soul.
À rouler par terre.
À rouler par terre.
Ça c'est toi,
musique
en fait.
De Gabriel Yared.
Mais c'est toi les paroles.
Oui, le texte c'est moi.
Mais alors comment ça vient dans les mots de Françoise Hardy?
Justement, elle disait d'ailleurs que ça a pas été simple.
Ouais.
Elle. Ça a pas été très simple.
Mais comment ça vient?
Mais parce que c'était ça qui était intéressant. Gabriel s'occupait, réalisait les albums de Françoise Hardy.
Gabriel Yared.
Gabriel Yared. Il était un petit peu comme un directeur artistique. Et il m'avait demandé, à moi, puisqu'on avait déjà travaillé ensemble avec Gabriel. Il avait fait les arrangements de l'album Les années 80 commencent, etc. Et d'autres encore. Et il a fait un album comme chanteur aussi, qui était vachement bien, dont j'avais fait le texte. Il m'avait demandé d'écrire des textes pour Françoise. Et je trouvais ça intéressant. Ben de la sortir un petit peu de son style.
De sa zone de confort.
De sa zone de confort, oui.
Ouais, et puis ça a donné quelque chose de totalement magique. Et maintenant qu'on entend...
C'est Arthur, hein,
c'est Arthur
que
Sims.
T'entends derrière.
Arthur Sims.
Ouais, la voix, c'est Arthur Sims.
Dans Univers Luni.
Et je pense que c'est d'ailleurs avec ça que j'ai fait sa connaissance et que c'est Gabriel Yaret qui m'a présenté ce Arthur Sims.
J'écoute la musique soul, ça c'est fantastique. Écoutez comment ça commence parce que je trouve ça merveilleux. Excellentissime. Et puis alors, enfin, bon, évidemment, c'est pas Mr. Freeze, mais c'est Mr. Swing. Rambo 3, t'as pas joué dans Rambo 3.
Non, j'aurais voulu, mais...
Être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Et puis, le coup de la station-service, tu nous as tous bluffés. Il y a un mec, à un moment donné, qui prend de l'essence. Vous avez des problèmes? Ouais, je sais pas. Et là, d'un seul coup, c'est Michel Jonas. Ça fait le tour de...
Oui, c'est vrai. Ah ben, c'est vrai, même le... Le directeur de... C'était quelle chaîne? C'était la première,
je crois. Non, c'est une chaîne info, je crois. Hein?
TF1.
Ah oui, alors c'est quoi TF1 comme chaîne? C'est une petite chaîne nationale?
Nationale.
Ah, d'accord, oui, c'est national, ouais.
Et le directeur m'a appelé pour me dire « On est désolé, les journalistes ne vous ont pas reconnu. » Je dis « Mais c'est pas grave. »
Mais
c'était très amusant.
C'était tellement drôle. Et toi, t'es là très embêté ben avec ta pompe.
Non, j'étais pas très embêté.
Oui, mais il y avait la queue partout.
Oui, non, mais là, il n'y avait pas. Ouais. Sauf que moi, j'avais téléphoné à cette station-service, où je leur avais dit, est-ce que vous avez du 98 sans plomb? Il me dit oui, et j'arrive, il n'y en avait pas. Et les filles viennent avec leur caméra. Alors, vous êtes embêté? C'était drôle comme situation.
Et c'était Michel Jonas. Je trouve ça fantastique. Écoute, c'est un sans faute, Luc de Saint-Aubin. On va t'offrir des cadeaux pour te remercier, bien évidemment. Tu verras, entre les platines et les concerts, Nostalgie fait ça comme paquet cadeau. Je voulais te souhaiter un très très bel été, Luc.
Merci beaucoup.
C'était très, c'était chatoyant.
Merci à vous, bonne journée.
Il était fort.
Il était très très fort, un grand sans faute. Merci, bel été. Et maintenant, eh ben, dernière ligne droite avec des petites questions. Et là, Didier Hervé, avec sa grosse voix, nous dit ça.
On se tutoie jusqu'à 20h.
Et maintenant, Jean-Luc te pose des questions sans filtre sur Nostalgie.
Alors, les questions sans filtre sur Nostalgie, tu disais que, effectivement, tu prenais le plaisir sur scène, le temps passe, le plaisir au cinéma, dans les téléfilms, le plaisir en chantant, en écrivant,
oui.
Le temps s'effiloche, on a eu ici Julien Clerc, Alain Souchon, l'instant présent, l'éphémère, il est présent en toi, tu as vu toutes ces années passées, tu te dis maintenant objectif, plaisir instantané, comment ça se passe à 60 et quelques années? Enfin, 70 et quelques années.
Non, mais je te dis, je crois que je me suis programmé et je n'ai pas perdu ça. C'est à chaque fois que je monte sur scène, j'ai 18 ans. Quand je suis pour la première fois monté sur scène au Golf Draw pour accompagner Vigon ou avec mon groupe, le King Set, où je commençais à être le chanteur du groupe en chantant des trucs de James Brown, de Otis Redding, de Wilson Pickett, de tout le répertoire rhythm and blues et rock. J'avais un tel plaisir, mais bêtement, tu sais, ce plaisir vraiment purement physique, tu vois, de chanter, quoi. D'être avec des copains sur une scène, de chanter avec des gens qui sont devant et qui aiment ça. Et je me suis dit, je ne veux pas perdre ça. Et quel que soit mon âge, je ne l'ai pas perdu. Je n'ai pas perdu ce plaisir-là. Et je pense que j'aurai suffisamment de vigilance pour me rendre compte si cette chose-là, c'est-à-dire cet enthousiasme-là que j'ai à faire, à écrire, à chanter, à jouer la comédie, etc., si cette chose-là s'en va, j'espère, mais je pense que j'aurai suffisamment de perspicacité pour le sentir.
Il faut être quand même armé psychologiquement, physiquement, intellectuellement. Tu te prépares physiquement quand tu pars faire une tournée
Je fais du saut en hauteur. Et des
oui, c'est ça.
Mais c'est tout.
Et oui, j'ai vu qu'Armand Duplantis avait explosé tous les records. Et toi, tu es un peu son coach aussi.
C'est ça, exactement.
Un coach mental.
Tout ça, je fais tout ça. Mais c'est pas ça. C'est que ça donne de la force. Ça donne de l'énergie. Tu n'as pas remarqué que beaucoup de gens qui se mettent à la retraite commencent à perdre de leur énergie.
Oui.
C'est un truc d'énergie, quoi.
Oui.
C'est-à-dire que le fait d'être sur une scène, de chanter, de répéter, de jouer la comédie, d'apprendre des textes, tu vois, ça marche. C'est comme un muscle aussi, ça, la mémoire. Ben, tout ça fait que ça me nourrit, ça m'entretient, j'ai la forme, je suis en bonne santé, Dieu merci, puis voilà. Donc je peux le faire. Et le fait que je puisse le faire fait que ça me renvoie quelque chose de positif et que ça me donne l'énergie dont j'ai besoin. Voilà.
Tu as ressenti des creux de la vague dans ta carrière? Et si oui, en fait, comment tu les as gérés? Tu t'es jeté dans l'écriture? Il y a eu des moments qui étaient plus en délicatesse. Tu disais que tu avais toujours chanté.
Oui,
et
toujours.
Après cette énorme popularité des années 70-80, il y a eu des essoufflements? Ça t'a marqué?
Non, j'ai pas eu des essoufflements, moi.
Pas de frustration?
Non, j'ai eu aucune frustration. J'ai pas eu d'essoufflement dans mon écriture et dans mon besoin et mon plaisir d'écrire et d'être sur une scène. Il y a peut-être eu des moments où mes chansons passaient moins à la radio ou ces choses-là. Mais ça ne m'empêchait pas de... Tu sais, c'est quoi le succès? C'est une voix qui te murmure à l'oreille, tu peux continuer. Tu peux faire ton travail. C'est ça le vrai succès. C'est pas un tube qui arrive aux deux maximum. Donc ce truc-là, je l'ai toujours eu. J'ai toujours pu. Je peux vivre de mon métier depuis toujours. Les moments où j'aurais pu avoir des doutes, c'est au tout début, où les gens me décourageaient, où les gens me disaient « Non, faut peut-être que tu fasses autre chose. » Parce que... Et là, dans ma tête, et c'est là où c'est la force de la conviction, je me disais « Ils savent pas. C'est ça que je vais faire. Je ferai jamais rien d'autre dans ma vie. » Cette histoire-là, elle peut renverser toutes les barrières. C'est pas seulement dans la chanson. Je sais pas si tu as remarqué ça. Toi, je suis sûr que tu l'as remarqué. Quand tu as un but et que tu n'as mais absolument aucun doute, toi, même ça touche même le corps. J'ai lu des interviews de gens qui étaient condamnés, par exemple, par la médecine, etc. Et qui se sont dit, comment ça, il me dit que je marcherai plus. C'est pas vrai, je marcherai. Il y a une force en nous. Et dont le moyen, c'est justement cette intime conviction que tu vas arriver à tes fins. Moi, j'avais ça, et ça, c'est la première. Un jour, une actrice me dit « Tu crois que je vais réussir ?» Je lui ai dit non. Elle a fondu en larmes. Je lui ai dit « Tu comprends que si tu me poses cette question et que je t'arrive, et que si j'arrive à te décourager, c'est qu'il y a un problème. »
C'est extraordinaire.
Ben, c'est vrai.
Tu lui as ruiné sa vie.
Non. Non.
Tu lui as donné de la force.
Elle a continué. Et c'était pour lui dire que si t'as pas...
Il faut se forger cette flamme, bien évidemment.
Quels que soient les découragements autour,
oui.
tu pourras pas y arriver.
Oui, toi, en ton fort intérieur, tu savais
je
et
savais.
Tu sais que de tout
aucun
manière...
doute. Attention, ouais. Parce que tu peux avoir des doutes qui sont même des fois presque inconscients, tu vois, des choses qui te disent « Mais attends, qu'est-ce que tu crois là? Qu'est-ce que tu racontes ?» Mais non. Non, aucun doute.
Tu es troublé par les réseaux sociaux, tout ce qui se passe. D'un seul coup, ça s'enflamme pour rien du tout.
Ça s'enflamme pour rien, ça fait des croyances fausses, ça fait des complotismes, ça fait des choses, ça fait des déchirures dans les familles, ça fait des trucs. Oui, je trouve ça un peu dangereux. Voilà, c'est toujours la même histoire. C'est comme l'intelligence artificielle. C'est au service de quoi? C'est au service de qui? Et qui s'en sert? Et dans quelle intention? Et quelles sont les valeurs que ça transporte, tout ça? Tu vois, c'est ça qui compte.
Ben disons qu'il n'y a plus cette notion d'effort chez les jeunes, puisque c'est
exactement.
L'information qui
Alors,
vient à eux.
Voilà, ça c'est ça. On connaît ces fameuses photos où dans un musée, tu as 15 mômes qui regardent leur portable au lieu de regarder les tableaux qui sont sur le mur.
Oui.
Mais c'est vrai que les mômes, ils sont maintenant sur les... Il faut lire, quoi. Moi, je le dis sur scène, je dis, attention, faites gaffe, on va devenir quoi? Ça va être quoi la génération future? On va être courbé comme ça, parce qu'on garde nos portables. Le cerveau va rétrécir, forcément, parce qu'il va...
On va plus avoir de coups, c'est les 100 coups.
On va plus avoir de coups.
Le
cerveau va rétrécir à cause de l'intelligence artificielle, à cause de tout ça. Moi, je leur dis, mais parlez à votre voisin, promenez-vous dans les bois, regardez le ciel... Et puis lisez.
Mais là, ça demande un effort. Je suis désolé pour les enfants.
Ben ouais, mais c'est peut-être une question d'éducation et de.
Ah bah ça, on en est
des parents qui peuvent dire arrête avec tes images, ton portable, ton machin. 5 minutes, oui, mais prends un bouquin.
Non, mais le coût de la transmission est très, très important.
Ah oui.
Je te sais très, très engagé, évidemment, pour de nombreuses causes, comme un pour tous et tous pour l'autisme.
Oui.
Tu as vu le petit truc en plus ou pas d'Artus?
Non, j'ai pas vu.
Il faut vraiment que tu
le
regardes.
Je vais le voir.
Parce que c'est à aujourd'hui, il y a eu quand même, par rapport à toutes ces différences, des pas progressivement qui se font pour l'ouverture.
Bien sûr.
Et toi, ce petit message sur la différence, tu l'as toujours prôné. Hein.
Que je pense que c'est la seule façon, c'est la seule issue pour l'humanité de survivre.
Mm-hmm.
C'est ça l'histoire. C'est-à-dire que tu vois, on est dans des temps de guerre en ce moment.
Oui.
Mais tout le monde se bat. Il n'y a pas seulement que les soldats qui se battent. C'est-à-dire, quand on n'est pas dans un pays sous les bombes, etc., on combat nous-mêmes nos propres démons. Et nos démons, c'est quoi? C'est pas seulement les terroristes, c'est l'égoïsme, c'est le manque d'intérêt pour les autres, c'est le racisme, l'antisémitisme, etc. Et donc, c'est la fraternité, le vrai combat.
Bien
c'est
sûr.
La fraternité. Moi, j'ai parlé souvent de ça parce que quand j'allais à l'école communale, quand j'étais môme, le cours commençait toujours avec le petit cours de morale. C'est bizarre, là, mais je me rappelle de ça. Ça m'avait marqué parce que le prof nous disait, et ça enseignait quoi ? L'acceptation de l'autre et la vraie fraternité.
Nous avions également le civisme et l'éducation civique.
Oui, c'est de ça dont je parle, bien
mais
sûr.
Oui, bien sûr. Voilà. Et l'éducation civique, c'était tout et simplement puis on était le petit geste du bonjour.
Petit geste
et Dieu merci.
Et on était tous en blouse grise. Et il y avait des juifs, il y avait des catholiques, il y avait des musulmans, il y avait des noirs, des jaunes. On était en blouse grise et on jouait ensemble dans la cour.
Ouais, je dois t'avouer que j'ai une petite pensée pour l'école Saint-Joseph de Toulouse, où j'étais de la 6e à la terminale. Et après, j'ai passé mon bac à Sainte-Marie-des-Champs. Effectivement, on était tous de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur.
Si t'as passé ton bac, t'as eu de la chance. Parce que moi, à la 6e, ça a été 4 années merveilleuses.
Eh ben oui. Écoute, c'est un bonheur. On va terminer, bien évidemment, avec les auditeurs, puisque ce qu'il y a de plus cher à Nostalgie, ce sont nos auditeurs. Et c'est eux, du moins pour parler français, ce sont eux qui te posent les dernières questions. What's happened? Sir, le WhatsApp de Jean-Luc. Et on a un premier appel. D'où, qui, quoi, qu'est-ce? Je n'en sais rien. Quelqu'un a déposé sur le répondeur du 06 60 495 875.
Oh là là.
Ben oui, ce superbe numéro de téléphone. Un doux message comme ça.
Salut Jean-Luc, salut Michel.
Coco.
Super content de passer à l'antenne.
Mm-hmm.
C'est Désiré de Saint-Malo.
Désiré.
J'avais juste une petite question pour Michel. À savoir, si on devait faire un film sur sa vie, quel en serait le titre et qui serait l'acteur principal?
Excellent. Il y a un seul Désiré à Saint-Malo. Eh bien, on l'a eu. C'est Désiré de Saint-Malo. Et bien alors ça, je trouve ça quand même merveilleux. Et il te pose cette question. Oui, Michel, on a réussi à avoir le Désiré de Saint-Malo. Et c'est pas évident.
Vous êtes balèze.
Mais attends, bah, nostalgie, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux te dire. Si on fait un film sur toi, c'est vachement intéressant.
Moi, je peux pas répondre à ces questions-là parce que je pense pas qu'on fera un film sur moi. Et de toute façon, c'est comme des fois, on me propose, certains éditeurs me proposent d'écrire une biographie, un truc. J'aime pas ça. J'aime pas cette idée-là.
Mais attends, c'est un Mr. Swing extraordinaire. Hein. Tu apprenais la musique, ton hypersensibilité, tu nous as accompagnés, je suis désolé. Moi, depuis les années 70, donc 74, de mémoire sur Dites-moi, tu m'accompagnes dans ma vie à chaque fois que j'ai un coup de blues, un coup de joie, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Tu es là à mes côtés.
Ah, ça me fait plaisir.
Mais non, mais c'est cette nostalgie positive qui nous accompagne. Donc, pour moi, tu serais une espèce de Swing, Mr. Swing.
Non, mais c'est pas mal, Swing, ouais. Mr. Swing, mais ce que je veux dire, c'est...
Mais c'est ça, c'est les gymnopédies...
Je n'ai rien contre... Ah oui, d'accord.
C'est ça, c'est-à-dire que tu nous emmènes dans tous tes univers.
Mais je n'ai rien contre la nostalgie, hein, qui est une radio que j'aime bien.
Et c'est pour ça qu'on est là.
Et c'est pour ça qu'on est là. Et j'aime effectivement, de temps en temps, regarder derrière moi, en arrière, de ce que j'ai vécu, etc., l'enfance, l'adolescence, etc., comme une source d'inspiration, je dirais, voilà. Ce qui compte, c'est maintenant, c'est le présent. Est-ce que je peux en faire quelque chose dans le présent, mais faire un truc sur moi, etc. Non, ça, je peux même pas répondre à la question.
Assez rigolo, souvent on te prend pour le papa de François-Xavier de Maison, t'arrives dans la famille de Samuel Benchetrit, ouais. Je suis allé te voir au théâtre Édouard VII avec cet excellent Patrick Timsit. Autant d'habitude, comme tu me disais, il n'est pas très bon, autant là il est excellent.
J'ai jamais dit ça, t'es dégueulasse.
Mais attends, tu me l'as dit en
fait. J'étais il n'y a pas longtemps au festival du ZES qui l'organise.
Je plaisante, c'est un ami évidemment avec cet humour.
J'aime beaucoup.
Ouais, bah, évidemment qu'on l'aime autrement,
François-Xavier de Maison, je le rencontre un jour et je lui dis, j'aime beaucoup cet homme, j'ai une admiration pour le comédien qu'il est, et je lui dis, j'espère qu'un jour on tournera ensemble. Et ben voilà, on l'a fait dans un téléfilm qui s'appelait À mon tour, je crois, téléfilm.
Et puis là, tu es devenu son papa dans les téléfilms sur TF1.
Aussi le négociateur sur TF1 et dans cette pièce-là. Donc voilà, je suis très souvent le papa de ce monsieur.
Ultime question de la part de nos auditeurs avant de prendre définitivement la route du week-end. Qui, quoi, qu'est-ce ? Écoutons donc.
Salut Jean-Luc, salut Michel, salut. C'est Romain d'Alençon. Alors moi j'avais une petite question pour Michel. J'ai vu qu'en 2016 il avait fait partie du rapport Le Coude avec son ami Manu Katché. J'aurais aimé qu'il nous raconte en quoi cela consiste et s'il y a eu des avancées significatives suite à cela. Merci beaucoup.
Alors, j'ai pas la référence du rapport Lockwood.
Lockwood, on lui a dit
Didier
ce fameux Didier Lockwood que j'adorais, un très grand violoniste qui nous a malheureusement quittés. On lui avait demandé de réfléchir sur la manière dont on apprenait la musique au môme. Et il avait fait tout un rapport et on en avait parlé à l'époque. Il a d'ailleurs une école, je pense qu'elle elle existe encore, hein, son école Didier Lockwood. Je ne me rappelle plus où est-ce qu'elle est située. Mm-hmm. Mais c'était vachement bien parce que moi, je n'aimais pas la façon dont on m'a appris la musique, avec le fameux guide chant, avec le solfège. Il n'y avait pas d'excitation, il n'y avait pas de plaisir, il n'y avait que le solfège, machin, le truc. Donc il fallait vraiment bouleverser ça. J'ai souvent raconté une petite histoire par rapport à ça. Ma fille, Anna, quand elle avait 2 ans, elle regarde la télévision et elle voit Ivry Gitlis qui joue du violon. Et elle me dit, moi j'ai déjà fait ça. À 2 ans, elle me dit, j'ai déjà fait ça. Je me dis, tiens.
Jouer du violon.
Oui, elle me dit, à 2 ans, elle dit, ah, moi, j'ai déjà fait ça.
Oui.
Anna me dit ça. Et avec ses mains, on se dit, tiens, ça vaut peut-être le coup de. Et je lui achète un petit violon et je l'inscris à un conservatoire municipal, dont je ne citerai pas le nom, mais qui est réputé. Mm-hmm. Et elle a été complètement découragée parce qu'elle est tombée sur un mauvais prof. Et le hasard fait qu'un jour, on se retrouve dans un train et on croise, j'étais avec Anna, et on croise Ivry Gitlis. On se connaissait déjà. Et je lui raconte cette histoire à Ivry Gitlis. Je lui dis, tu te rends compte, ma fille, je l'ai inscrite dans un conservatoire municipal. Le violon, c'est quand même, t'es d'accord, un instrument difficile. Hein. Elle l'a découragée. Ma fille était gauchiste et donc elle tenait le violon.
Gauchère.
Oui, parce que gauchiste,
ouais, c'est autre chose.
Oui, gauchiste.
On en parlera plus tard.
Oui, c'est ce que je me suis dit en disant
le mot.
Non, il
n'y a aucun problème.
Je me suis
c'est
planté.
Pas le bon Jean-Luc, en fait. C'est tu t'es trompé.
Ouais. Elle était gauchiste, donc elle tenait.
Oui. Elle était donc gauchère et donc
elle était gauchère et donc elle bougeait le violon plutôt que l'archer et donc la prof l'a complètement engueulée, l'a découragée et je raconte ça à Ivry Gitlis et qui me dit oui ça m'énerve beaucoup parce que ça arrive très souvent que les mômes soient découragés à cause de la méthode d'éducation du violon. Donc il y avait beaucoup.
T'imagines si Jean-Yves Delangelo on faisait bouger le piano au lieu de bouger les doigts, quoi.
Voilà, oui, mais c'est pas pareil, c'est plus difficile.
Ben oui.
Et donc je trouvais
que Rhoda Scott faisait bouger sur ses orgues les claviers, hein.
Oui, ça c'est vrai.
Ah ben oui, c'est vrai. N'en parlons plus.
Je me rappelle, je l'ai vu.
Ben attends.
Et donc
si j'en parle, c'est
pour revenir
à. Vu.
Ben je sais, tu parles de ce que tu connais. Hein.
Bien sûr.
Et donc il y avait beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire d'amener le plaisir d'apprendre
voilà.
À l'école. Et c'était ça le rapport de Didier. Je me rappelle plus de quelle manière j'avais participé à ça, mais on en avait discuté. Mmh. Voilà, c'est tout.
Eh ben écoute, c'est tout. Moi, j'ai adoré ce moment avec toi. Hein, tu vois, la FM nostalgique, c'est spécialisé funky un petit peu. Ça a swingé, d'ailleurs, ça a jazzé.
Oui.
J'ai remarqué qu'il y a eu un petit peu de rock, un peu de slow, mais il y avait quand même beaucoup de partage, beaucoup d'amour
oui.
et beaucoup de joie
c'est
à
ça.
Te rencontrer. Et on va te rencontrer, évidemment, comme je disais, sur les routes, à la fois le 26 juin au Sable d'Olonne, mais surtout pour nos amis de Paris, n'oubliez pas, il est 2 soirs d'affilée. Je ne sais pas comment il va faire avec ses corps. Vocales qui d'habitude sont hyper chères, tu les soignes
oui,
des cordes mais... vocales.
Surtout que c'est le 15 et le 16, et donc le 16 c'est un dimanche, et donc c'est pas la soirée, c'est une matinée, enfin une matinée qui doit avoir lieu à 18h.
Ouais, c'est peut-être même un peu plus tôt, hein. Fais attention, on est plutôt sur 17h30, ne sois pas en retard.
Possible.
En tous les cas, on n'a pas été en retard. J'ai adoré, comment te dire merci ?
Merci.
Eh ben voilà.
Merci à toi.
C'était Michel
Jeunesse. Mais je savais que ce serait bien.
Michel Jonas sur Nostalgie, à retrouver évidemment en podcast sur nostalgie.fr. Bon week-end, à très vite Michel sur les routes.
Oui, j'espère te revoir vite.
Avec bonheur.
Nostalgie. On se tutoie sur Nostalgie.
Avec Jean-Luc Reichmann. Tous les vendredis soirs, 19h-20h. Et à tout moment en podcast sur l'appli Nostalgie.